Merci. Susan, je suis très heureuse d'être ici ce matin. Je pense que vous allez reconnaître des thèmes communs des trois intervenants précédents, Ed, Anne-Marie et Jeff. Ils parlent de l'évolution de la durabilité et je vais vous parler de ce contexte plus large. Ce que j'aimerais vous dire pour commencer, c'est que les gens ne savent pas à quel point Sobeys est une grande compagnie. Elle a débuté il y a une centaine d'années dans l'Atlantique et elle a triplé de taille. Donc, nous avons plus de 15 milliards de dollars de ventes et nous avons plus de 15 marques. Je vais vous parler du temps. Le temps et le changement. Il y a 25 ans, je faisais de la science de l'environnement. Nous parlions du changement climatique. On n'utilisait peut-être pas ce terme-là, et du réchauffement de la planète. On savait qu'on commençait à reconnaître ce phénomène. En même temps, le biologique, qui représente 3 % des ventes au détail dans le supermarché, et en 25 ans, vous pouvez dire qu'il y a eu une évolution. Et ce que j'aimerais vous dire, qu'avec les questions auxquelles nous sommes aux prises, si nous sommes à l'écoute, en 25 ans d'ici, on ne peut pas toujours en parler. Et dans 25 ans, ça ne peut pas représenter seulement 3 % des ventes des produits. Et peut-être on va vers des meilleures pratiques. Certains vont dire que le bio n'est pas durable, mais je vais laisser cet argument-là pour une autre journée. On ne peut pas penser à ça comme un seul créneau. Il faut qu'il y ait un impact sur la façon dont on livre les produits et les services. La bonne nouvelle, le changement s'en vient. Et moi, il y a 8 ans, lorsque je travaillais pour Whole Foods, le PDG de PepsiCo, une compagnie qui était 10 fois la taille de Whole Foods pour la vente, cherchait à parler à un auditoire de Whole Foods. C'est un libertaire, c'est un penseur indépendant. Il ne voulait pas rencontrer PepsiCola. Mais après plusieurs mois, il a dit oui et il m'a demandé d'aller à cette réunion. Et c'était une réunion. John Mackey, le fondeur de Whole Foods, s'est habillé comme d'habitude en sandales, en short et avec des vêtements Patagonia. Alors, chez PepsiCo, son PDG, bien sûr, ils étaient cravatés avec leurs costumes et des souliers bien brillants. Alors, une réunion intéressante. Je ne vais pas vous donner tous les détails. À un moment donné, je vais vous en parler davantage. Mais ils ont montré des produits en développement, des chips bio qui n'étaient pas sur le marché. Et ils essayaient de nous attirer avec cela pour essayer ce maïs bleu de Tostito. Et c'était, nous vendions Garden and Eden, les chips bleus. Et je les avais achetés pour ma famille. Et j'ai dit, bon, c'est un bon produit. J'ai dit que j'allais l'essayer. Ils nous ont montré une diapo qui a montré que le consommateur préférait à 90 % leurs produits plutôt que le nôtre. Et j'ai dit, bon, vous, vos clients, ce n'est pas la même catégorie que les nôtres. J'ai essayé le produit, j'ai dit, non, félicitations, c'est un très bon produit, il est bien meilleur que celui que nous vendons. Alors, ils étaient tous sourires et ils se sont dit, ah, notre travail est fait. Et je leur ai dit, mais nos clients veulent aussi connaître l'histoire de l'emballage. Est-ce que c'est recyclable? Est-ce que du matériel recyclable a été utilisé? Et l'usine, où était-elle? Sur quel genre de terrain? Comment est-ce que vous traitez les travailleurs qui travaillent dans cette usine? Et ils m'ont regardé comme si je parlais le grec. Et ils m'ont dit, il n'y a personne qui nous a parlé de ces sujets auparavant. Et cela faisait il y a 8 ans seulement. Aujourd'hui, lorsqu'on parle d'une analyse,
and the characteristics of bringing organics to the end product.
Il se fiait sur le produit final. Nous savons qu'il y a beaucoup de dimensions qui existent. Et la raison pour laquelle je vous le mentionne, c'est que 8 ans plus tard, ce forum, cette organisation dont je fais partie, composée de 20 personnes, il y a Kraft, Unilever, General Mills, Sara Lee et un certain autre Walmart, Carrefour, Tesco, tous ces grands détaillants, les 400 plus grands détaillants du monde, détaillants et fabricants de produits de consommation. Le sommet annuel, pendant 3 jours, 3/4 de l'agenda était sur la durabilité. C'était une conférence annuelle pour le leadership général et le 3/4 de la conférence parlait de durabilité. Et à ces conférences, il y a des stratégies sur la durabilité, des objectifs visant la durabilité. Et en 8 petites années, les choses ont avancé assez rapidement. Et beaucoup du travail auquel je vais faire référence évolue très rapidement. Donc, alors, c'est ce qui se passe dans nos services. Et les pêcheurs nous disent, pourquoi est-ce que vous mettez l'accent sur nous pour la durabilité? On ne veut pas pointer le doigt à quiconque, mais on doit être responsable et ainsi transparent. Oui, être responsable de ce que nous vendons et comment nous gérons nos magasins, les camions, les entrepôts. Et tout ceci ne représente qu'un petit pourcentage de l'empreinte cumulative au nom de nos consommateurs. Et alors que nous voulons créer un impact, nous regardons la chaîne d'approvisionnement, où on retrouve, où est la source de ces produits. Et maintenant, c'est nécessaire que nous soyons tous responsables. Ce n'est pas seulement une question de compétitivité et d'essayer de battre le concurrent. Il faut que cette responsabilité nous appartienne. Et tous ces messages peuvent créer davantage de limites à aller de l'avant. Donc, ça devient une question pré-concurrentielle et les possibilités de collaboration pour réduire les coûts et accélérer le processus le long de ce cheminement. Je regarde du côté des diapos françaises, mais je ne peux pas dire le français. Donc, lorsqu'il s'agit de responsabilité, j'ai trouvé des bonnes phrases, que ce soit du côté environnemental. Faites confiance, mais vérifiez. Ça, c'est un bon terme. Il ne s'agit pas seulement des producteurs chefs de file. Il faut qu'on ait un dénominateur commun. Il y a certains qui ne font pas leur effort, et on le sait tous. Si on doit être responsable, on doit avoir la responsabilité de ceux de la source. Ce n'est pas uniquement une question de confiance, mais il faut vérifier aussi. Un autre vérificateur a dit « Sans document à l'appui, ce n'est qu'une rumeur ». Et moi, j'ai ajouté « Si ce n'est pas mesurable, on ne fait que cocher une case ». Si on parle uniquement des meilleures pratiques et on ne peut pas quantifier cela et parler d'amélioration, on ne réalise pas des progrès non plus. Donc, il faut que ce soit une question de mesurabilité. Qu'est-ce qui se passe au juste en passant par la salubrité alimentaire? Il y a beaucoup de travail qui se fait, mais on ajoute les caractéristiques sociaux et environnementales. Ça va au-delà des meilleures pratiques ou des pratiques exemplaires. Il faut comprendre là où sont les gens. Et comme nous savons tous, les normes définies par le producteur, c'est terminé. Il faut que ce soit défini par multiples intervenants. Et je suis très heureux que Jeff ait parlé avant moi. Et les universitaires ont parlé aussi. Mais sans qu'il y ait tous ces intervenants, j'aurais eu de la difficulté moi-même à intervenir. parce que ces journées-là, des normes définies par le producteur, sont terminées. Il faut accepter le monde dans lequel nous vivons.
La vérification n'est pas une fin en soi. Il faut avoir de la capacité à améliorer les conditions. Il faut comprendre ceci. Et on s'est concentré un peu trop sur la vérification, l'audit. Et les producteurs peuvent étudier des audits antérieurs sans améliorer les conditions. Il faut avoir les deux. Alors, il y a toute l'idée des l'exclusivité par rapport à la collaboration. Je vais en parler un peu plus plus tard. Il y a des façons différentes de mesurer les choses. Un exemple classique, c'est un vérificateur entre dans une unité de production, il voit un extincteur sur le mur, mais il y a deux autres crochets. Il demande, ça sert à quoi les autres crochets? Et on dit, c'est facile, votre client spécifique, ça doit être une certaine odeur, mais un autre vérificateur veut une autre hauteur, etc. Alors, c'est un très bon exemple. On demande la même chose de façon différente. Il faut travailler de façon collaborative pour faciliter les choses aux producteurs aux États-Unis pour qu'ils puissent livrer la marchandise. Et alors, indicateur du besoin de collaborer. Quand on parle de la conformité mondiale, c'est un processus d'harmonisation. Ils ont vu qu'il y avait plus de 1000 codes, critères et normes d'éthique et de travail dans le monde. C'était pour toutes sortes d'industries et pour les syndicats, etc. C'était tout un fouillis. Alors, il y avait une fatigue par la vérification. Pouvait y avoir 20 ou 30 vérifications chaque année. Il n'y a pas de gagnant dans ces situations. Les producteurs peuvent le comprendre. Mais dans les normes environnementales, il y avait beaucoup de lacunes, mais on essayait de le combler. Alors, tout à coup, on va voir toutes sortes de façons de mesurer les choses. On a besoin de travailler de façon collaborative et établir des façons de mesurer les choses. Et la vérification n'est pas une fin en soi. Voilà la situation qui existe. Il y a très peu d'entreprises qui sont en train de changer les choses. Alors, si ça devient quelque chose de très concurrentiel, où tout le monde va être responsable de la chaîne linguistique, si ce n'est pas tout le monde qui travaille de la même façon, ça pourrait être vraiment le chaos. Alors, il faut vraiment trouver de nouvelles solutions collaboratives. J'avais parlé de l'offre et la demande et la durabilité radicale, la collaboration et la transparence sont des exemples. L'harmonisation du côté de la salubrité des aliments, vous devez connaître l'Initiative mondiale de la sécurité qui a utilisé 5 normes régionales. Il y avait des producteurs qui avaient un agrément, une certification. On a décidé de mettre les 5 ensemble. Alors, certaines personnes qui ont travaillé dans ce domaine ont dit par la suite, il faut penser à autre chose. Walmart, Carrefour, Tesco, IKEA, qui le faisaient. Et c'est toute l'idée ils usaient on exploite les travailleurs. Peut-être qu'on devrait penser à ça. C'est tout un processus qui est en train de fournir des résultats excellents. Ces projets d'emballage à l'échelle mentionnée, c'est très important. L'emballage, on le reconnaît, c'est seulement entre 2 et 10 % de l'empreinte du produit. Mais c'est très voyant et on sait que l'industrie paie une partie importante. Alors, comment organiser les choses pour que les choses soient plus faciles à changer? Ce projet, il y a aussi le consumer goods firm. On essaie de standardiser la mesure des empreintes au carbone, mais il y a aussi l'eau, la biodiversité. Essentiellement, on est en train d'établir un système de mesure. Quand on mesure les choses, on finit par faire quelque chose, mais si on mesure tous d'une façon différente, on mesure le temps, les devises, les poids, les mesures, la durabilité est très difficile à comprendre parce qu'on a pour beaucoup de personnes. Alors, le système de mesure est extrêmement important, mais définir la façon de mesurer, c'est seulement la première étape. Saisir et capter les données et le partage, l'échange des données est un autre élément important qui est très pertinent au sujet d'aujourd'hui. Et finalement, vous connaissez probablement pas le GS1. C'est les gens qui travaillent avec les codes à bord. Il y a un code pour tous les produits. Il y a des champs de données avec des spécifications de cahier de charge. On pourrait rajouter des caractéristiques sur la durabilité dans ce genre de processus pour l'échange de données. Et ça va nous amener à la transparence radicale, c'est-à-dire offrir tout ça aux consommateurs. Si vous allez à good.com, vous allez voir plus de 70 000 produits qui sont cotés selon les caractéristiques de durabilité. Baku au Royaume-Uni fait le même genre de travail. Ils ont des applications pour les smartphones. Vous voyez le code à l'écran. Ils n'ont pas toutes les données nécessaires, mais ils utilisent ce qui existe et ensuite ils font des extrapolations. Ce que je dis au commerce, c'est que veut pas, c'est quelque chose qui arrive. Le train est déjà parti de la gare. Alors, la transparence est fondamentale pour ce que vous vendez. Alors, on a besoin de temps. Nous avons tous nos verrues. Il faut élaborer des pratiques. Alors, est-ce qu'on voudrait que ce soit notre donnée au lieu de l'interprétation des données de la part d'autres personnes? Walmart, il y a quelques années, a dû créer un groupe qui fait du travail. C'est un consortium de durabilité et ils veulent être proactifs et normaliser les mesures dans pour capter les données. Alors, ils vont avoir une catégorie de produits où on peut choisir les produits qui ont une empreinte environnementale écologique plus réduite. Et si quand on parle de la cruauté envers les animaux, non, on n'est pas les seuls. Hein, le monde s'oriente dans ce sens. On a dû être proactif dans la chaîne lysique par rapport aux poissons et fruits de mer. Et les emballages, c'est quelque chose de nouveau. Nous travaillons fort afin d'aborder les questions dont il faut qu'on s'occupe. Et il y a des choses dans le bien-être des animaux et dans l'agriculture qui offrent l'occasion d'être proactif. On ne doit pas être à la défensive, on doit profiter de l'occasion sans être contesté toujours par les médias pour aller de l'avant de façon délibérée et proactive. Moi, je suis très encouragé par le travail du CNSAE, votre modèle, parce que ça nous donne la possibilité d'être proactif et de continuer à améliorer les réussites qui existent déjà. Très rapidement, je dirais que le CNSA a des objectifs et des buts définis. Et je dis pourquoi c'est pertinent pour les détaillants qui étaient moins engagés par rapport à la connaissance des produits, mais on doit les connaître de plus en plus maintenant. Une approche axée sur les données probantes scientifiques, c'était avec Jeff et le travail qu'ils font, c'est beaucoup plus intéressant comme acheteur de ces produits. Il faut que le processus ait de multiples parties prenantes. Ce n'est pas seulement les producteurs qui définissent les choses. Il faut axer nos connaissances sur les données probantes des scientifiques. C'est une excellente façon de questionner les choses, mais on a vraiment besoin de données scientifiques aussi. Il faut avoir une approche normalisée. Nous n'avons pas d'export de bien-être des animaux. McDonald's, une concentration très étroite dans ce domaine, mais en général, c'est pas ça qu'on fait. Nous ne sommes pas des experts sur la durabilité des fruits de mer ou de poissons, mais on doit se mettre d'accord sur certains principes et les processus peuvent donner de très bons résultats, mais on ne peut pas participer à tous les codes, à tous les programmes de chaque groupe. Dans le modèle du CNSA, est très important et c'est important de l'influencer et de l'encourager sans essayer de tout diriger. Si nous pouvons travailler avec l'approche CNSAE et l'appuyer comme une façon d'aller de l'avant, ça encourage les gens à suivre cette approche et nous pouvons être sur la même longueur d'onde, ce qui est la crédibilité. C'est une excellente façon de faciliter nos progrès, de savoir avec qui on peut travailler et travailler en réseau. Et le fait que Susie Miller ait été ici hier, c'est très important de faire connaître ce message. C'est très important d'avoir ce lien avec le gouvernement et de pouvoir établir des liens avec la chaîne logistique pour aller de l'avant. C'est très important et ce qui est important aussi, c'est la sensibilisation dans les détaillants et dans les services alimentaires. Il y a beaucoup de personnes qui ne sont pas au courant et ça va les aider à ne pas penser qu'ils doivent avoir leur propre programme et ne pas être à la défensive face à un groupe environnemental. Ce sont des questions systémiques qu'il faut aborder de façon systémique. Si chaque entreprise a des exigences, je pense que c'est problématique. L'inspecteur, c'est un très bon exemple. Je vous remercie. On va commencer. Je me demandais que Neil Jassim, je m'appelle. Sobeys, comment est-ce qu'elle aborde des situations de boycott de produits que certains groupes individuels mettent à l'avant afin d'atteindre leurs objectifs? Ça n'arrive pas souvent. Nous ne travaillons pas dans une niche spécifique. Whole Foods travaille plus dans une niche et Whole Foods peut se trouver dans des positions qui sont plus de niche, mais vous devez accepter le fait que vous allez avoir un effet, une échelle beaucoup plus large. Alors, il faut les aborder de façon cohérente et substantielle et ne pas réagir à des aspects micro. Il y a toujours des conséquences inattendues, mais Mais ça n'arrive pas très souvent. Mais nous voulons être axés sur les données probantes scientifiques. Alors, je donne un exemple de les poissons et fruits de mer. Greenpeace pense que certaines espèces devraient faire partie de leur liste rouge des problèmes graves. Il y a la fondation de Dave Suzuki a une liste très différente, mais nous pensons que ce que Greenpeace dit, c'est que nous pensons qu'il y a des problèmes graves et que vous devrez cesser de vendre certains produits. Ils sont bien intentionnés, mais ils sont très simplistes. On ne peut pas parler d'une certaine espèce et la mettre sur une liste rouge parce qu'il y a beaucoup d'endroits où on peut pêcher cette espèce. Et la biomasse peut être très différente dans des zones différentes et les pratiques de gestion peuvent être très différentes. Alors, utiliser les mêmes critères pour le tout, ça n'a pas de bon sens. Il y a aussi des questions philosophiques. Greenpeace ne pense pas qu'on doit utiliser le trawling sur le fond de la mer. Alors, le chalutage, mais avec des fonds marins sableux, c'est pas très nocif. Des études biologiques l'ont démontré. Alors, c'est pas un gros problème. Alors, le haddock et le halibut font partie de leur liste rouge et on pense qu'on devrait cesser les dangers. Mais ce qu'on dit, c'est que si on n'a plus la possibilité d'effectuer des changements, si on n'est plus engagé, 60% des fruits de mer, de poissons consommés au Canada est important et on devrait se concentrer beaucoup plus sur d'autres espèces, mais on peut effectuer des changements si on s'engage et renforcer les capacités, mais si on n'est plus engagé, les pratiques de gestion vont rester les mêmes et on va vendre simplement dans un autre marché où on n'est pas préoccupé par le sujet. Alors, on est souvent en désaccord avec Greenpeace, ou presque toujours, mais nous faisons des choses en profondeur sur les fruits de mer et sur le poisson que d'autres ne font pas. Mais Greenpeace, je leur ai dit, vous êtes encouragé les gens à être très superficiels. Je ne veux pas attaquer Greenpeace. Peut-être que je l'ai fait, mais c'est un exemple. J'utilise comme exemple. Dans un processus collaboratif, parmi les parties prenantes, peut nous permettre d'aller de l'avant en reconnaissant les questions. Je pense que c'est la façon la plus appropriée d'aborder ces questions. Maple, c'était une présentation excellente, David, mais ma question, vous dites que c'est important de mettre tout le monde sur la même longueur d'onde pour que ce ne soit pas tout le monde qui établit des normes. Je me demande qu'est-ce qu'on fait dans l'industrie des services alimentaires pour mettre tout le monde sur la même longueur d'onde. Une bonne question parce que je n'ai pas traité beaucoup. Il y a quelques années, il y a 3 ans, j'ai commencé à faire un peu de travail dans cet espace et de fil en aiguille, j'ai commencé à parler avec Susan. On a eu de bonnes conversations. Elle m'a mis en contact avec Jackie. On a eu d'excellentes conversations et je parlais avec plusieurs de nos fournisseurs pour comprendre la situation et un peu plus tard, Jackie m'a appelé pour dire qu'on était en train de comité directeur pour l'évaluation des soins aux animaux d'élevage. Et une fois qu'elle m'avait expliqué, je me suis dit que c'est une occasion excellente. On peut faire les choses une fois, le faire bien, et faire la même chose dans les différents groupes sectoriels. Et je me suis dit oui. Et on avait dit qu'on a plus de besoin d'engagement avec les acheteurs. Alors, j'ai comité un comité consultatif de détaillants et de entreprises de services alimentaires que j'utilise avec ce modèle et pour obtenir leurs commentaires et pour les sensibiliser par rapport à ce qui arrive pour qu'on puisse y participer et encourager le processus et participer à la ligne logistique. On travaille, c'est un travail en cours. Les restaurateurs et l'Association des services alimentaires s'intéressent beaucoup à s'engager à comprendre ce qui se passe. C'est du travail qui... il y a beaucoup de travail qui reste à faire, mais bon. Jess Burnett, de l'Université de la Colombie-Britannique, je vous remercie de vos commentaires. Comme chercheur dans le domaine des sciences sociales, on parle beaucoup avec le grand public sur ces questions du bien-être des animaux. On comprend assez bien ce que veut dire, ce que pense le citoyen moyen, mais il y a un écart entre les attitudes et le comportement. C'est quand les pratiques sont pas toujours les concepts sont pas toujours traduits. Mais c'est quoi votre point de vue sur les point de vue des consommateurs? Il y a beaucoup de choses importantes dans la question, l'écart entre l'attitude et le comportement. Dans un sondage, on dit, moi, je crois une telle chose, mais dans le comportement, on achète les choses d'une façon très différente. Moi, je dis que c'est un écart dans les aspirations. La santé et le bien-être, c'est une chose, mais il y a des obstacles. Il est loin de la coupe aux lèvres. Il y a l'aspect de la facilité, des coûts. L'autre aspect, c'est que les personnes sont très sensibles aux coûts. Et c'est particulièrement vrai dans la situation actuelle. Et beaucoup de ces caractéristiques sont plutôt de la valeur ajoutée. C'est pas une façon de demander une prime, un prix plus élevé. Il faut comprendre le contexte. À l'avenir, il va falloir que ces choses soient comprises pour le consommateur moyen. Il y a seulement un petit nombre qui le changement climatique, le manque d'eau, la toxicité, la biodiversité. Les poissons et les fruits de mer durables. Il y a beaucoup de sujets. Il y a très peu de personnes qui vont s'engager, mais il y a beaucoup de personnes qui, mieux renseignées, seraient beaucoup plus engagées. Et ça permet peut-être aux détaillants de trouver une façon de réduire l'écart aspirationnel. Vous avez parlé des pressions subies par les détaillants quand ils veulent améliorer le bien-être des animaux, la santé des êtres humains. Est-ce que vous avez une hiérarchie de ces questions dans votre schéma? C'est très difficile d'avoir un programme où on est toujours gagnant. On peut améliorer peut-être le bien-être, ça va être une situation moins favorable pour l'environnement, comme par exemple. Alors, est-ce que vous avez une certaine hiérarchie? C'est très important ce que vous dites. La durabilité est toujours le résultat final en triple. Il y a l'aspect financier, mais il y a l'environnemental aussi. Il y a l'aspect humain. Il y a des conditions animales. Jeff nous a montré ça. Il y a trois ronds. Il y a le résultat final en triple, mais il s'agit de rajouter les conditions sociales et environnementales. On n'a jamais fait ça dans les affaires. Alors, ce système de mesure est extrêmement important. Mais moi, je suis fondamentalement optimiste parce que quand on mesure, on fait des choses. Il y a beaucoup de choses qui ne sont pas mesurées. Il y a des choses qui sont faciles et maintenant que nous sommes en train de nous en occuper et qu'on comprend les effets sur l'environnement, on peut faire des choses, mais on ne peut jamais faire le tout. Il y a toujours des échanges. Il y a des conséquences inattendues et non voulues des fois. Et il faut aller au-delà des sciences. Jeff, c'est le prochain qui va parler. Jeff avait parlé après moi. dans un autre forum où la jugeote est très importante quelquefois, même si la science peut vous amener jusqu'à un certain point. Alors, merci.